BFM Business présente. BFM Entreprise. Transmission, les règles. Sandra Gondouin.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission BFM Entreprise, l'émission qui plonge au cœur de l'entreprise tout au long de la semaine. Vous le savez, le lundi, on parle de leadership, le mardi des outils RH, le mercredi de croissance, le jeudi de transmission. C'est le cas aujourd'hui, transmission familiale d'une entreprise créée il y a plus de 20 ans. On va parler de LBO, on va parler d'accompagnement, on va parler d'histoire de boîte avec mes invités du jour. David Berda, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes CEO de Teva System, bienvenue dans cette émission. Et Frédéric Bosquet, associé fiscaliste chez Moncé Avocat. Bonjour Frédéric.
Bonjour Sandra.
Bienvenue à tous les deux dans cette émission. On parle de transmission aujourd'hui. C'est parti.
Le témoignage.
On va parler de Teva System. C'est quoi Teva System, David ?
Alors Teva System, c'est une entreprise qui a été créée par mon père en 2004, qui est spécialisée dans l'importation et la distribution de produits de sécurité. Donc quand on parle de produits de sécurité, on va parler de vidéosurveillance, de caméras, d'alarmes, de contrôle d'accès, tout ce qui est digicode et ainsi de suite. Et donc notre métier, c'est d'acheter, de sourcer des produits sur le marché mondial, de les importer et de les revendre exclusivement à des installateurs professionnels. Donc on distribue les produits et on les conseille sur toute la partie autour du produit, donc notamment tout ce qui est avant-vente, conseil sur le produit, le choix des produits, l'installation et tout ce qui est après-vente, l'installation, la hotline et comment on fait marcher les produits pour que ça fonctionne pour nos clients.
Donc B2B.
B2B exclusivement. B2B sur des professionnels du secteur, notamment des installateurs et des intégrateurs. Donc c'est la personne qui monte sur l'échelle, poser la caméra, paramétrer et ainsi de suite.
Rappelez-nous quelle est l'histoire de cette entreprise. Vous l'avez dit, ça a été créé par votre père il y a plus de 20 ans. Comment est venue cette idée ? Dans quel marché ? Pourquoi il a créé cette entreprise ?
Mon père a un profil plutôt informatique, donc il a toujours évolué dans les métiers de l'informatique, au tout début de l'informatique. Et en 2004, à la base, Teva, ce n'est pas une société de vidéosurveillance, c'est une société d'informatique, une SS2I. Et donc quand il commence Teva, il fait de la SS2I, un de ses clients lui demande de la vidéosurveillance. Donc il s'intéresse au produit en 2004. En 2004, c'est le tout début de la vidéosurveillance sur IP. Et à l'époque, installer une caméra, c'était Big Brother, c'était de l'espionnage industriel.
Oui.
Et donc, il commence dans cet environnement, il installe des caméras. Donc au début, il est installateur. Et un jour, un de ses clients lui demande un produit qui n'existe pas sur le marché français. Et il commence à le chercher à l'époque, c'était en Asie, donc à Taïwan. Il trouve la première caméra qu'il achète et qu'il importe et qu'il se met à installer. Et en 2006, il arrête de faire de l'installation pour faire exclusivement de la distribution de produits de vidéosurveillance. Donc, il se met à revendre des caméras à d'autres installateurs, donc tout début de la vidéosurveillance sur IP, et on rentre dans le marché de la sécurité par la vidéosurveillance sur IP, qui était assez proche du marché de l'informatique. Donc, il commence à développer l'entreprise comme ça, et il part de presque rien, hein, puisqu'il crée Teva avec 5000 euros au début,
ouais.
Et il monte l'entreprise jusqu'en 2011 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, 5 personnes. Et donc, c'est la première étape de l'évolution de Teva, où mon père, d'une page blanche, crée ce qu'est Teva aujourd'hui. Et nous, moi, j'arrive en 2011 avec ce goût du...
On va y revenir, bien voilà. Sûr. J'allais vous demander, vous arrivez d'où ? Vous êtes dans quel milieu ? Est-ce que c'est votre première entreprise ? Ou est-ce que vous avez travaillé avant pour autre chose ? Et finalement, on commence déjà à monter cette entreprise familiale et en faire un petit empire avec vos frères, comme on va le raconter.
Alors, moi, je viens d'une école de commerce. Donc, Teva, c'est mon premier job, en quelque sorte. Donc, j'ai grandi avec l'évolution de Teva. Et j'ai plutôt donc école de commerce. Et j'arrive chez Teva en tant que commercial, donc premier métier. J'apprends sur le tas. Je fais de la prospection au début. Je connais pas du tout la technique. Et je découvre le métier de la distribution de produits de sécurité comme ça. Et donc, je fais mes deux premières années chez Teva en tant que commercial. Et très vite, je commence à évoluer dans l'entreprise en prenant de plus en plus de responsabilités. Donc, je prends derrière la direction commerciale. Je m'occupe ensuite des achats. Et je commence à toucher un petit peu à l'ensemble des postes. Et 2 ans après mon arrivée, j'ai aussi mes frères qui nous rejoignent.
Donc, ils sont plus jeunes. Tout le monde part dans l'entreprise, finalement.
Au final, tout le monde rejoint l'entreprise. Donc, Teva, c'est une très belle aventure entrepreneuriale et familiale. Et je pense que ça, c'est une des réussites de mon père aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on est 3 frères. Les 3 travaillent dans l'entreprise avec des rôles bien définis et des postes définis dans l'entreprise. Mais on est tous passés par l'ensemble des postes. Et ça, c'est important. On parle aussi de transmission aujourd'hui. C'est que on s'est inscrit dans le développement de Teva. Donc, on est arrivé quand c'était encore une petite structure. On a grandi avec l'entreprise. On a vu un peu tous les postes, hein, mais on est passé par du stock. On a préparé des commandes. On a fait de l'administration des ventes. On a fait de la technique. Donc, on a un peu touché à tout. Et ensuite, on a trouvé un peu chacun notre voie dans l'entreprise. Donc, moi, j'ai pris la direction générale en 2021. Mon deuxième frère s'occupe des achats. Il est directeur de la supply et des achats. Et le troisième et data manager, donc on a chacun nos pôles de compétences et ça c'est hyper, hyper intéressant pour l'entreprise et pour la complémentarité.
Frédéric, on va expliquer comment vous avez accompagné effectivement cette transmission en quelque sorte. Rappelez-nous quand même ce que fait Moncey Avocat, quelle est la spécificité du cabinet?
Bien sûr, Moncey Avocat c'est un cabinet à l'ADN résolument transactionnel, un cabinet d'une cinquantaine d'avocats aujourd'hui. On est 12 associés, on couvre toutes les matières classiques du droit des affaires. Ça va évidemment du droit des sociétés au droit financier, à la fiscalité dont je m'occupe, du social, du restructuring, du contentieux. On s'occupe majoritairement de fonds d'investissement, de groupes familiaux. On a des fondateurs, on a des dirigeants qu'on accompagne sur tous leurs aspects, essentiellement les opérations qui vont impliquer une opération sur le capital. C'est quand même l'ADN fondamental du cabinet. Et donc j'ai rencontré David dans le cadre d'une opération sur le capital de la société qui est intervenue la première fois en 2021. Mais avant ça, peut-être qu'on reviendra sur les étapes précédentes parce que c'était intéressant sur ce que disait David. Concrètement, la société a été montée en 2004. Toi, tu es monté tôt aux commandes. En tout cas, tu as pris des fonctions dans la société assez tôt après la création de ce projet. La réalité, c'est que les sujets de transmission sont arrivés un peu plus dans un second temps quand la société avait déjà commencé un petit peu à maturer. Finalement, il n'y a pas eu de logique dès le départ de mettre en place une transmission dès le premier jour. Enfin, il y avait sûrement cette idée dans un coin de la tête de ton père. Tu nous diras si c'était pas le cas. Mais il n'y a pas eu de transmission trop tôt. C'est un point important parce qu'on se dit souvent quand on veut transmettre, il faut transmettre tôt. Et c'est vrai, on va y revenir. C'est évidemment important de le faire à un bon moment dans la vie d'un groupe familial. Mais l'anticiper trop, ça peut créer plus de problèmes que ça n'en résout. Là, on y reviendra. Je pense que le timing qui a été fait pour la mise en place de cette transmission, donc aux alentours des années 2010-2011, peut-être à une ou deux années près, c'était parfait parce que la société avait déjà un projet, une direction. Un chiffre d'affaires qui n'était pas non plus anecdotique, c'était pas non plus démesuré, donc on n'avait pas d'enjeu de prise de valeur qu'on n'arriverait pas à gérer dans le cadre de d'autres méthodologies de transmission. Et donc ça a été plutôt efficace sur cette première rentrée en musique dans la montée de la deuxième génération.
Mais on n'est pas dans le cas de ces entreprises, ces centaines de milliers d'entreprises qui vont chercher un repreneur d'ici les 10 ans sur lesquels le gouvernement a finalement alerte. Hein. Là, on est vraiment, quand on vous écoute, dans une sorte de stratégie, je ne sais pas si c'est votre père qui a pensé à ça, s'il a eu de la chance de voir que ses trois fils allaient revenir dans le giron familial pour travailler sur son entreprise, mais on a l'impression effectivement que ça s'est monté de façon très cohérente, très intelligente, qu'il vous a un peu testé, il a regardé qui voulait pas, bon finalement tout le monde veut, et c'est vrai que ce que vous dites, on a l'impression que cette transmission, elle se fait finalement dans les conditions idéales.
Alors, vas-y. C'est un peu le cas. Après, je pense pas que ça a été une stratégie de mon père. Ça s'est fait un peu, ça s'est imposé naturellement.
Ouais.
Quand moi j'arrive en 2011, ça reste une petite structure de 5 personnes. Et quand j'intègre Teva, bah, je veux un peu tester le monde du travail et faire mes armes. Et au final, j'adhère au projet, j'adore le secteur. Et on est sur un secteur, la sécurité, qui est hyper dynamique. On est sur un secteur qui fait presque 9 à 10% de croissance par an depuis 15 ans. Donc je m'inscris un peu dans cette continuité et mes frères rejoignent l'aventure. Mais il n'y avait pas un plan initial de se dire, bon, c'est ça le projet et on doit arriver là. Ça s'est un peu construit naturellement avec la prise de poste de chacun et on a utilisé au tout début le système de donation. Donc mon père a très vite voulu nous faire monter au capital parce qu'il a vu qu'on s'investissait dans le développement de l'entreprise et qu'on participait à ce projet de croissance au final, qui est un projet de croissance et un projet familial. Et donc du coup, on est très vite monté au capital sur des montants peu significatif au début, et on a pu progresser avec l'entreprise, et ensuite il y a eu différentes phases, on va en parler dans la vie de Teva, puisqu'il y a eu cette première étape, mais ensuite il y en a eu d'autres avec la première LBO, qui est aussi un élément assez structurant de la vie d'une entreprise, donc on découvre le monde du M&A, et on va en parler avec Frédéric.
Justement, cette première étape, de faire rentrer, et finalement de structurer cette nouvelle organisation avec les fils, ça s'organise comment? C'est quoi les questions qui se posent, Frédéric? à ce moment-là.
La première question, c'est qui veut monter à bord? C'est quelque chose d'extrêmement clé qu'on a tendance à oublier. On a un cas d'école dans l'entreprise Teva sur le fait que toute la fratrie a vocation à rester à bord, est intéressée par le projet. Ça n'est pas la règle absolue. Il y a des familles dans lesquelles on n'est pas tous faits pour reprendre une entreprise. Et c'est hyper important d'avoir une période de test, en quelque sorte, au sein de la famille pour savoir qui veut reprendre les commandes demain. Quand on a un cas parfait où tout le monde veut reprendre les commandes, on peut organiser ensuite des donations intelligentes où tout le monde reste au capital de la société. Quand on a par contre un frère, une sœur qui a moins d'intérêt sur le segment, il faut peut-être envisager d'autres outils, d'autres méthodologies pour leur permettre plutôt une compensation en quelque sorte sur le fait que la société partirait plus vers des personnes intéressées, une compensation financière, on va dire les choses, plutôt que de lui transmettre absolument des parts. Et ça fait le lien avec mon point de tout à l'heure. En fait, transmettre, oui, transmettre tôt, oui, mais pas trop tôt non plus parce que tout le monde ne va pas forcément vouloir être actionnaire du groupe familial. Tout le monde doit profiter dans une famille, enfin, c'est cohérent qu'on ait envie de rétribuer tout le monde et qu'on ait une forme d'équilibre qui se crée entre les différents enfants sur la répartition d'un patrimoine. Mais le patrimoine, on peut lui donner différentes formes, on va y revenir. Et je pense que c'est important quand on organise cette première étape de transmission qu'on sache déjà que la génération qui prend les commandes et qui reçoit ses donations a vocation à être active dans le groupe et pas simplement actionnaire passif.
Il faut organiser la gouvernance. Vous êtes DG, vous l'avez dit, l'un de vos frères est aux achats, l'autre est data manager. Ces rôles-là, ils se sont définis en fonction des compétences que vous aviez à la base, de vos études. C'était naturel ou il a fallu discuter, négocier?
Non, on négocie pas, on est assez d'accord. Ça s'est mis en place un peu tout seul avec le temps. Moi, je suis arrivé en premier en 2011, Benjamin nous a rejoint 2 ans après et Ruben juste après. Donc, on a tous un peu cherché notre voie dans l'entreprise, on a testé différentes choses et ça s'est un peu mis en place de façon presque naturelle.
Oui.
Puisque moi j'avais une envergure un peu plus large puisque je touchais à plus de secteurs. Benjamin a testé pas mal de choses et il a adoré les achats et le sourcing et c'est une vraie création de valeur pour Teva aujourd'hui. Et Ruben avait ce côté un peu tech qu'on avait peut-être un peu moins chez Benjamin et chez moi. Donc ça s'est organisé assez bien. Je suis aussi l'aîné, donc je sais pas si ça a aidé à la mise en place de l'organisation, mais en tout cas ça a été quelque chose d'assez fluide. Il y a jamais eu de friction. Après, dans toute société familiale et dans toute famille, il y a des sujets, mais chez nous en tout cas on se dit les choses et je pense que c'est hyper important dans les boîtes familiales, c'est que quand il y a des sujets on les aborde, on en parle et après on passe à autre chose et ça c'est hyper important.
Les discussions, évidemment, ça c'est dans toutes les entreprises et c'est très sain. Alors on reste dans cette situation pendant combien de temps, justement, avant de faire entrer un actionnaire extérieur? On pose les bases, on vous regarde comment ça fonctionne ou assez vite, finalement, on prend la décision de faire entrer quelqu'un d'autre? Frédéric?
Alors, je vais évidemment laisser David commenter sur le cas de sa propre société, mais je pense que, pareil, on est toujours dans le cas d'école, dans la société de David. En fait, on attend de faire décoller la société d'un stade que je vais encore qualifier de relativement embryonnaire. Quand on fait 1 million de chiffres, c'est très bien, c'est pas encore des chiffres astronomiques, à un stade un peu plus conséquent, oui. Un niveau de maturité différent. Alors je laisserai donner les chiffres, mais en 2021, la société avait déjà une autre dimension. Le père de David avait aussi un autre niveau de seniorité dans l'organisation familiale et c'était peut-être le bon moment de se dire qu'on pouvait changer la nature de son patrimoine. Il avait un patrimoine fortement exposé en actions dans la société Teva. Faire venir quelqu'un à ses côtés, une opération de LBO qu'à présent, ça permet de dégager, transformer un peu la nature des actifs familiaux et peut-être de dégager des liquidités pour la génération du dessus, profiter de cette opération pour faire monter la génération suivante.
Alors comment ça se passe concrètement le LBO?
Alors comment ça se passe? Donc pour revenir un petit peu en arrière, donc en 2011, on va dire que sur la première vie de Teva de 2004 à 2011, mon père bâtit les fondations de Teva. Donc c'est une structure qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, 5 personnes, mais il a construit la base et pour moi c'est l'une des périodes les plus difficiles dans la vie d'un entrepreneur. Donc on a eu cette chance de profiter quand même de ce premier step. Nous on va dire qu'on construit aussi le développement et la valeur, donc on s'inscrit aussi dans ce développement avec mes frères. Et donc en 2021, quand on fait la première opération de LBO, on fait à peu près 24 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sur ces 10 années, on fait globalement 30% de croissance par an, donc une croissance assez importante pour le marché de la sécurité, pour plein de raisons différentes. Et ce qui se passe en 2021, c'est qu'on se dit « Ok, on a fait une première étape de croissance qui est assez structurante et on a là un sujet de deux visions un peu différentes. » Alors pas différentes, mais on n'est plus au même stade de nos vies où il y a mon père qui a construit sa carrière chez Teva et qui est plutôt qui arrive pas encore en fin de carrière, mais qui commence à prévoir la suite. Et moi et mes frères qui avons envie d'accélérer et de continuer le développement. Et donc là, vient un petit peu le sujet de la LBO qui arrivait aussi par, on va dire, on s'est pas trop posé de questions sur le sujet. Et on s'est dit, OK, on va faire entrer un fonds d'investissement qui va nous permettre, grand 1, de sécuriser le travail de toute une vie, puisque mon père avait toutes ses économies dans Teva, il a tout réinvesti dans l'entreprise pendant des années pour construire ce qu'est Teva aujourd'hui. Et moi et mes frères qui avions la volonté d'accélérer le développement et notamment de commencer à faire ce qu'on appelle du build-up et de la croissance externe. Et pour ça, on avait envie de sécuriser une partie de l'activité, donc le capital de mon père, et de s'équiper de gens dont c'est le métier, un fonds d'investissement, pour nous aider à accélérer. Et c'est aussi une très belle aventure, puisqu'en 2021, Capza Transition rentre au capital de Teva. Donc, il y a aussi une vocation de travailler sur des LBO, ce qu'on appelle primaires, des sociétés plutôt familiales qui n'ont jamais travaillé avec du M&A. Donc ça, c'est aussi très important dans le choix du fonds d'avoir des gens qui ont cette culture. Et parce que quand on travaille en famille, c'est pas pareil que quand on travaille avec un fonds d'investissement au capital, mais ça nous fait grandir.
On change de dimension, en fait.
Et ça nous a apporté beaucoup de choses dans la structuration, dans la connaissance de notre boîte et ainsi de suite. Et donc, Capza rentre en 2021 et ensuite, on a aussi un beau projet de développement puisqu'en 2021, on fait 24 millions d'euros de chiffre d'affaires et aujourd'hui, on fait 76 millions d'euros de chiffre d'affaires 5 ans après avec 130 collaborateurs sur l'ensemble du territoire français.
Comment, parce que dans un LBO, il y a plusieurs candidats, il faut choisir celui qui correspond le mieux à l'entreprise. Comment elle se fait, cette décision, Frédéric? Sur quels critères, au final? Même si David a un peu
commencé à le dire. Pour le coup, je pense que David objectivement, sera mieux positionné pour répondre à pourquoi tel fonds est retenu plus qu'un autre. Il y a deux grands critères, une question d'ADN et une question financière aussi. Il ne faut pas oublier que c'est des process qui sont compétitifs, les prix sont discutés et les fonds se positionnent à des niveaux différents, forcément. Le plus offrant a aussi un argument que d'autres n'ont pas forcément. Bon, il y a ça. Peut-être je reviens une seconde, je reviens sur le sujet de la transmission et de l'articulation avec le fonds, parce qu'on a parfois tendance à penser que faire rentrer un fonds, c'est vendre à un tiers et donc sortir du capital. Vous voyez bien que c'est pas du tout la logique de Teva, au contraire, ils montent au capital encore aujourd'hui, on a des actionnaires familiaux et une génération suivante qui a vocation à prendre de l'ampleur. Il y a des solutions offertes par certains profils de fonds d'investissement qui permettent de monter en détention capitalistique, en equity dans la société, sans pour autant retirer l'avantage d'une sortie, une transformation du patrimoine en liquidité pour la génération d'avant. C'est en partie ce qui s'est passé avec l'opération avec Capza, qui a permis à la famille à la fois de financer des liquidités dans le cadre du LBO pour sortir, réduire la participation en tout cas du père de David. Contre du numéraire, de l'argent, et en même temps, dans la même opération, indépendamment des donations qui avaient été anticipées, il y a une montée au capital mécanique de David et de ses frères, puisque Capza ne souscrit pas nécessairement des instruments dans la société qui sont les mêmes instruments que ceux qui sont portés par David et ses frères. Il y a des différences de typologie d'instruments qui permettent d'affiner le transfert de valeur, et si le cahier des charges est rempli, en réalité, la société peut économiquement rester dans un groupe familial à côté d'un fonds. Le fonds, c'est un partenaire au final, c'est pas le repreneur d'un groupe. D'ailleurs, il est souvent là pour une période transitoire.
Dans ce genre de circonstances, on voit après une opération comme celle-là, on voit à combien d'années devant soi. On a de l'air pour combien de temps pour appliquer la stratégie, pour grandir, pour faire de la croissance externe, faire grandir le groupe en réalité. Comme vous l'avez fait.
Il y a différents types de fonds sur le marché, avec des durées de présence plus ou moins longues. Globalement, on est sur 5 ans. On arrive aujourd'hui en fin de cycle du fonds qui nous a accompagnés. Donc, on est sur un projet de développement commun. Je prends le fonds, moi, aujourd'hui, comme un partenaire de croissance, puisqu'ils nous ont aidé vraiment à accélérer le développement de Teva. Ils ne sont pas aux manettes, mais en tout cas, c'est un bon sparring partner pour discuter et prendre de l'info. Et donc, du coup, ils nous ont accompagnés pendant 5 ans. Ils sont toujours au capital. Et là, on prévoit l'opération d'après.
La suite.
La suite, du coup. Donc là, le projet, c'était vraiment de mailler le territoire français et de devenir le premier acteur sur le marché français. Aujourd'hui, on est le troisième distributeur de produits de sécurité sur le marché français et le premier importateur de produits de vidéosurveillance. Donc, c'est assez important. Et on prévoit que d'ici un an, on sera numéro 1 ou numéro 2 sur le marché français. Et ensuite, il y a une histoire pour la suite, mais je pense qu'on va en parler.
Ben oui, exactement. C'est quoi la suite? Il nous reste 6 minutes. Moi, j'aimerais bien savoir comment vous voyez la suite. Alors, il y a ce marché qui est, vous l'avez dit, vous êtes très bien positionné. C'est très concurrentiel, la vidéosurveillance. Donc, comment on fait la différence? Comment on monte assez en puissance pour passer premier, justement? C'est quoi le projet?
Les points de différenciation de Teva, ce qui a fait qu'aujourd'hui on a évolué rapidement et qu'on a pris des parts de marché, ils sont autour de trois axes. Le premier, c'est la digitalisation. On a très vite investi dans les outils digitaux Le marché de la distribution B2B, et notamment dans la sécurité, c'est plutôt un marché qui est vieillissant, avec des acteurs qui sont là depuis très longtemps. Nous, on était un petit peu le petit nouveau qui est arrivé dans l'écosystème, et on s'y positionnait comme un acteur digital, un peu plus moderne. Donc ça, c'est un élément de la différenciation, donc avec des outils, un ERP assez puissant et beaucoup d'IT dans lequel on a investi. Et ensuite, l'autre élément, c'est qu'on a aussi travaillé sur un modèle, ce qu'on appelle omnicanal hybride, assez poussé, où grâce au digital, on a voulu fusionner le modèle traditionnel d'agence locale avec des comptoirs de vente qui existaient depuis des années et le modèle digital du web. Mmh. Et on a beaucoup travaillé sur la fusion de l'agence avec le web, où nos clients peuvent consommer en agence, mais consommer sur Internet, consommer avec des commerciaux et passer d'un modèle de consommation à l'autre assez facilement. Ça a été un élément de la croissance de Teva, qui a permis la croissance en tout cas. L'autre élément, c'est les gens qui nous ont rejoints, parce qu'au final, il y a des hommes et des femmes derrière le projet. Et donc, ça reste une aventure familiale, mais il y a énormément de gens qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, on est 130 et
130 collaborateurs.
Tout le monde ne fait pas partie de la famille, hein, bien évidemment. mais en tout cas, c'est un peu, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont là depuis le début, qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Ça, c'est un autre élément qui a permis de développer Teva. Et le troisième, c'est l'expertise technique. On a quand même un très gros bagage technique chez Teva sur le conseil, sur l'accompagnement. Donc, on se positionne comme un distributeur à valeur ajoutée. On achète des produits qu'on importe et qu'on revend, mais il y a toute le conseil qui va autour. Et le niveau de conseil que vous mettez autour des produits, que ce soit avant la vente ou après la vente, c'est un élément différenciant aujourd'hui.
Ça fait la différence.
Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est les trois briques sur lesquelles on a investi très tôt et qui ont pris de l'ampleur avec le développement de Teva, qui font qu'on a réussi à driver cette croissance.
Bon, capitalistiquement, on fait un deuxième LBO, c'est ça qui se prépare, messieurs ?
Aujourd'hui, globalement, c'est ce qui est c'est ce qui est en cours, enfin, mm-hmm. ce qui va être lancé. On commence à regarder. La Capza arrive en fin de cycle, donc il faut faire sortir Capza du capital. Et on a un projet aujourd'hui. On a bien travaillé le territoire français. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de développer le marché européen et notamment l'Europe de l'Ouest. Donc on commence à regarder ce projet-là et donc on va certainement se rapprocher d'un fonds qui nous permettra de continuer l'aventure de Teva et de développer ce marché qui est en pleine évolution.
C'est un point important parce qu'effectivement, on parle de transmission, c'est l'objet de cette émission, et on démontre un petit peu que organiser une transmission à côté d'un fonds, ça se fait et ça s'accélère grâce à un fonds. Maintenant, l'ADN premier d'un fonds, c'est quand même d'aider des sociétés à se positionner, à augmenter, à monter en puissance, en allant sur des marchés qu'ils maîtrisent moins en interne, en les aidant à se structurer pour s'attaquer à de nouvelles opportunités. Ça passe aussi par de l'accompagnement dans les build-up, les croissances externes. Je sais que Teva est passé par cette phase-là. Il y a eu plusieurs croissances externes qui ont été faites avec l'aide de Capza. Évidemment, par la suite, il y aura probablement des projets équivalents. Le fonds, c'est un partenaire, c'est vraiment un partenaire qui aide à la transmission, mais qui aide surtout au développement de la société. À la fin des fins, l'objectif premier de tous les acteurs, que ce soit les actionnaires historiques et le fonds, c'est de faire en sorte que cette société, sur la période de vie de présence du fonds au capital, elle se trouve dans une meilleure posture à la fin qu'au départ.
Est-ce que, comme votre père l'a fait, vous, les trois frères, vous anticipez aussi que peut-être la suite sera en partie entre les mains de vos enfants à vous ? Alors, est-ce qu'on y pense déjà ? Vous êtes jeune, mais...
C'est un peu tôt. Moi, ouais. Ma fille a 3 ans.
Oui, c'est un peu tôt pour lui poser la question, c'est vrai.
Pour l'instant, le projet dans Teva, il est un peu jeune.
Mais dans l'idée ?
Aujourd'hui, c'est pas un sujet. Je ne sais pas où on sera dans 20 ans. Donc, pour l'instant, on voit tous les 5 ans, on va dire. On sait où on va sur les 5 prochaines années. Et on verra comment évolue Teva et comment évolue le marché de la sécurité de manière globale. Donc, je pense que c'est un peu tôt pour...
C'est un peu tôt, surtout à l'heure de l'intelligence artificielle.
Il va falloir les tester, il va falloir que les enfants montent...
Après les écoles, il va falloir les faire entrer en stage, effectivement. Une question pour terminer, parce que dans cette émission transmission, on parle beaucoup d'accompagnement. En quoi c'est important, justement, d'avoir un spécialiste de ces étapes clés-là qui permettent aux dirigeants et aux dirigeants de l'entreprise, finalement, de autant maîtriser la stratégie, le capital et en même temps, c'est ça la croissance, les mains dans le cambouis tous les jours dans l'entreprise.
C'est primordial d'être accompagné aujourd'hui. Je pense que d'avoir des bons conseils, ça permet de faire des opérations réussies et de construire un projet qui fonctionne. On l'a fait avec Frédéric, on a été très bien accompagné sur la LBO en 2021. Ça permet d'avoir un projet qui marche et on ne peut pas tout savoir, tout maîtriser. Il y a des gens dont c'est le métier, qui font ça toute la journée et savoir où on est bon et où on est plus bon, c'est hyper important pour un dirigeant. Et donc, s'entourer de professionnels comme Frédéric, c'est quelque chose d'hyper important.
Frédéric, pour finir.
Je ne vais pas contredire David, c'est un métier C'est un sujet de spécialiste, il faut évidemment se faire accompagner. Là-dessus, c'est un peu la chance que j'ai, c'est que comme j'accompagne à la fois des fonds d'investissement et des familles, j'ai une réelle compétence, une réelle connaissance, une profondeur de vue sur les sujets de management package, les sujets de structuration de LBO, c'est une partie de mon métier quotidien, et les enjeux familiaux, parce qu'évidemment, j'ai une grande partie de ma clientèle qui a des enjeux de cette nature. Articuler les deux, à la fois l'aspect transmission pour ce qui nous occupe et l'aspect structuration d'une opération, c'est extrêmement clé d'avoir quelqu'un qui maîtrise ces deux sujets.
Merci messieurs d'être venus nous parler de cette transmission de Teva System. David Berda, CEO de l'entreprise Teva System, et Frédéric Bosque, associé fiscaliste chez Moncey Avocat. Émission à retrouver à 12h30 sur BFM Business, sur notre appli, sur notre site également. Passez une très bonne journée.
BFM Entreprise, transmission, les règles sur BFM Business.